Les voies de service, mercredi le 28 novembre 2018. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Les Voies de service. Ici Daniel Lachance au micro de Canal M en compagnie de Serge Bradet.
Bonjour Daniel.
Bonjour Serge.
Bonjour.
Et à la régie Tiens la liberté, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour groupe.
Vous allez bien tout le monde?
Ah oui, oui, oui.
Tout le monde à la maison va bien aussi malgré un petit peu la pluie et la neige mouillée ce matin. C'est moins agréable un petit peu de marcher
yak,
là-dedans.
Yak. Qu'on fait.
Donc, restez à l'intérieur et écoutez-nous. C'est plus agréable que de patauger là-dedans. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Serge?
Moi, dans la première partie, dans notre première demi-heure, dans la presse de samedi dernier, dans la section art, il y avait toute une série appelée Nostalgie. Alors, c'est un petit tour d'horizon d'événements artistiques qui ont marqué les esprits au Québec au cours des dernières décennies. Décennies 60, 70, 80, 90, 2000. Il y a des choses qui vont vous intéresser, là, ça, Daniel.
Il y a certainement des choses qui vont
vous
intéresser.
Ça parle beaucoup de musique.
Oui, bon.
Je suis dans vos plates-bandes ce matin.
Bon. Et moi, bon, en première partie, je vais vous parler d'une chanteuse française qui est très connue au Québec et qui sort un album de duo. Et je vais vous parler aussi d'une chanteuse américaine qui vient de signer un contrat qui risque d'être pas mal intéressant, qui pourrait aussi peut-être changer la donne pour certains autres artistes. Donc, Serge, on parle de nostalgie ce matin.
Alors, dans la presse de samedi, un article d'André Duchesne qui s'appelle intitulé « Les années... » Bon, évidemment, vous avez les années 60, 70, 80, 90, 2000. On va passer à travers ça tranquillement. Alors, Expo 67.
Oui, je me souviens.
60, oui. Oui. Alors, l'actuelle exposition consacrée à Alexander Calder au Musée des Beaux-Arts de Montréal est un très bon exemple de la marque qu'a laissée Expo 67 dans nos vies. Ça a vraiment été un événement qui a marqué le Québec, hein, les Québécois. Ça nous a vraiment fait entrer dans le monde.
Effectivement, à cette époque-là, il faut se souvenir comment on était au Québec. Ça a changé beaucoup.
La sculpture trois disques, appelée l'homme là, de Calder, la dentelle métallique de la biosphère, la chanson « Un jour, un jour », les costumes des hôtesses, le logo de Julien Hébert nous reste toujours en tête. Certains ont même exprimé le désir de recréer une exposition universelle à Montréal pour le 50e anniversaire de l'événement, c'était l'an dernier.
Oui, je me souviens d'avoir entendu parler de ça.
Mais ça n'a pas fonctionné.
Mais ça n'aurait pas eu le même impact non,
non
plus.
Non,
parce qu'effectivement, comme vous dites, les changements étaient majeurs à l'époque. Et moi, je me souviens d'une chose en particulier qui m'avait frappé, parce que j'étais quand même très jeune à l'époque. C'était 2 ans environ avant le lancement du Concorde, l'avion.
Oui.
Une collaboration entre la France et la Grande-Bretagne. Et c'était tellement futuriste tout ça. On avait l'impression qu'on venait de changer, d'entrer dans un nouveau monde, effectivement.
Alors, là, évidemment, je suis dans vos plates-bandes. Woodstock.
Oui, Woodstock, ça c'est...
Vous me permettez d'en parler?
Ah, absolument, absolument. Ça se pourrait que je vous corrige.
Ah ben là, c'est André Duchesne que vous allez corriger. On dit « Ah, comme on les aime, les grands rassemblements socioculturels à la Woodstock. Ces événements fédérateurs où l'on se rassemble... » Vous êtes d'accord avec ça, fédérateurs?
Bon, quand même, 500 000 personnes, presque.
« Où l'on se rassemble dans un esprit de paix, de partage autour d'un même thème et un peu de boue. »
Beaucoup.
On en a pour preuve tous les clones ou versions miroirs survenus dans le monde depuis 1969. On pense au festival de l'île de Wight, 2 semaines après Woodstock, Manso en 1970, un ratage complet, sans
le dire.
Oui, d'accord. Live Aid en 1985 et tous ces festivals musique et art à la Oceaga aujourd'hui. Les Beatles.
Oui.
Ben évidemment, les incontournables. Impossible de passer à côté du Fab Four qui fait toujours autant parler de lui. Il y a à peine 2 semaines, combien de médias dans le monde ont évoqué les 50 ans de la sortie de l'album blanc?
Oui, même ici, on en a parlé.
Vous en avez parlé. Alors, je ne m'étendrai pas trop sur les Beatles. Parce que... Le symbole, ça c'est intéressant, le symbole Peace and Love.
Oui.
Nombreuses sont les publications en ligne qui attribuent à Gerald Oldham, qui prônait le désarmement nucléaire, la création du symbole Peace and Love en 1958.
Oui, ça fait quand même...
Mais avouons que c'est dans les années 60 que ce symbole, aussi connu comme le Smiley, a explosé dans la culture populaire pour ne plus jamais en sortir. Sans surprise, il fait partie de la collection d'emojis qu'on appelle, qu'on retrouve dans les claviers de nos téléphones intelligents. Les sérigraphies d'Andy Warhol.
Mm-hmm.
Marilyn Monroe, Mao Zedong, les boîtes de soupe Campbell, le grand classique, sont les trois plus célèbres symboles des sérigraphies d'Andy Warhol, qui roi new-yorkais du pop art. C'est au début des années 60 que Warhol commence à produire ses premières œuvres sérigraphiques. À peu près au même moment, Royal Liechtenstein fait fureur avec sa série de comics. Leurs œuvres sont toujours reconnaissables au premier coup d'œil. Maintenant, je vérifie vos connaissances. Un film qui a marqué les années 60.
Ah, il y en a eu plusieurs.
Mais un film vraiment qui est sulfureux un peu. Une relation amoureuse.
C'était
entre...
pas dans les années 70?
On parle des années 60.
Parce qu'avec le mot sulfureux, je pense à Last Tango in Paris.
Non, avant ça.
OK, on est dans les années 60.
Un jeune avec une madame un peu plus...
Ah, Mrs. Robin. Ah, le lauréat.
Le lauréat de Graduate.
Oui.
Ouais. quelle pièce Paul Simon a-t-il joué en rappel lors de son passage au Centre Bell le 13 juin dernier?
Mrs. Robinson.
Ça,
c'est devenu un classique. Ouais,
c'est de chanson mythique du duo Simon and Garfunkel qui était au cœur de la trame sonore du long-métrage de Graduate de Mike Nichols. Sorti en 1967. Le film est un emblème cinématographique des années 60. Est-ce qu'on a encore un peu de temps?
Je pense que oui. Une minute?
Une minute, bon. Les années 70, une autre question. Les années 70, un mariage à la télé, vous rappelez-vous? Premier mariage à la télé.
Il y en a eu plusieurs quand même. Mais non, c'est...
Mais vraiment à la télé, durant une émission de télé.
Une émission très populaire. Chez nous, ou...
Oui. Vous pensez vraiment que Céline et René ont tout inventé en se mariant à la télé? Ben non. Le 9 mai 1970, la chanteuse québécoise la plus populaire de son temps, Chantal Paris.
Oh boy.
De son vrai nom. Vous vous rappelez?
Oui.
De son vrai nom, Lucie Bernier, et le compositeur André Sylvain convole en studio devant les caméras de Télémétropole, devenue TVA aujourd'hui. La cérémonie a eu lieu dans le cadre de l'émission Jeunesse, animée par une autre grande vedette de l'époque.
Pierre Lalonde,
oui. Ginette Renault et René Martel, entre autres, en étaient, et Pop la vie. Godfather, un dernier avant que je quitte. Le cinéaste américain Francis Ford Coppola a 4 longs métrages derrière la cravate quand son film sur la mafia de Godfather, le parrain, inspiré du roman de Mario Puzo, gagne 3 Oscars en 1973. 2 ans plus tard, la suite remportera 6 Oscars. Ces films font connaître les grandes vedettes que deviendront Al Pacino et Robert De Niro. Et Coppola finira la décennie en 1979, avec son chef-d'œuvre sur la guerre du Vietnam, Apocalypse Now.
Mm-hmm. Avec Marlon Brando. Ouais.
Alors, la suite tout à l'heure?
Oui,
d'accord.
Absolument. Donc, je vous ai parlé tantôt une chanteuse française qui est quand même très connue au Québec. Vous vous souvenez certainement. Avec ses duos volatiles, Véronique Sanson convole en duo avec Souchon, Bruel, Zaz et compagnie. Et c'est un article qui est paru dans Le Figaro. Dans ce nouvel album, la chanteuse convoque la fine fleur de la chanson française pour revisiter ses plus grands succès. Un classique, mais réussi, dans l'attente du retour de l'artiste qui, atteinte d'un cancer de la gorge, a dû annuler une série de concerts.
Elle
était malade. Un florilège de chansons en duo avec des pointures de la scène française, c'est ce que propose Véronique Sanson avec ses duos volatiles chez Sony Music. Dans cet album, sorti vendredi, la chanteuse de 69 ans revisite 15 de ses plus beaux titres, de « Amoureuse » à « Besoin de personne » en passant par « Chansons sur ma drôle de vie ». C'est probablement les trois les plus connus qui ont joué beaucoup au Québec à l'époque. Mmh. Elle est accompagnée par des figures tutélaires comme Alain Souchon, Patrick Bruel ou encore Eddie Mitchell, quand même. Ainsi que par des artistes plus jeunes, Vianney, Julien Doré. Côté femmes, Zaz, Juliette Armanet et Jeanne Chéal posent également leur voix. Si le principe de l'album de duo n'est pas très novateur, ce disque propose de beaux moments de chansons tout en justesse et en émotion. À la voix hypnotisante de Véronique Sanson, puissante, chaude et légèrement éraillée, répondent avec subtilité celle de ses invités. Le duo avec son grand ami Alain Souchon, une interprétation de Baïa, qui date de 72 quand même, où se mêle harmonieusement le timbre posé, un peu étouffé de Souchon et les trémolos de Sanson, est particulièrement convaincant. Plusieurs clips vidéo disponibles sur YouTube accompagnent cet album. En noir et blanc, très élégant, il capture des instants empreints de douceur pendant l'enregistrement des chansons. Véronique Sanson serrant dans ses bras Alain Souchon, riant avec Christophe Maé entre deux sessions, ou encore réprimandant gentiment Vianney, qui s'obstine à la vouvoyer. Ça doit être un petit peu embarrassant des fois, ça aussi. Cet album prend une résonance très particulière avec, en cette période où Véronique Sanson, atteinte d'une tumeur amygdalienne, a dû annuler tous ses concerts jusqu'à la fin de l'année pour suivre une radiothérapie. Les duos volatiles, beaux et touchants, permettront de patienter jusqu'au retour sur scène de cette grande dame de la chanson française. Et justement, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, elle avait annoncé justement que les traitements allaient bien. Et dans un autre article qui avait été publié dans le Figaro le 15 novembre, on pouvait voir, en conclusion de son message, l'éternelle amoureuse de la chanson française fixe la date exacte de son grand retour sur scène. Mm-hmm. Ce sera le 24 avril 2019, le jour où elle soufflera les 70 bougies de son gâteau d'anniversaire.
C'est
donc,
joli.
Ouais. Ben oui. Elle termine en disant « Alors, je vous donne rendez-vous au printemps. J'ai bigrement envie de fêter avec vous mon anniversaire en chiffres tout ronds, en chantant et en chantant bien avec vos yeux, vos mains et vos sourires. »
S'il te plaît, je voudrais aller à Bahia. Je l'ai bien vu dans la lampe ta-da-da.
Je retiendrai deux places dans l'avion, madame, très loin du son des accordéons, et je t'aime.
Oh, caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau de Bahia. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot.
Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et je t'aime.
Oh, oh caresse-moi.
Véronique Sanson, duo avec Alain Souchon et la pièce Bahia.
Et donc, Serge, là-dessus, on continue avec la nostalgie.
Oui, allez-vous faire encore une petite chorégraphie? C'était vraiment beau de vous voir.
Mes chorégraphies passent très bien à la radio, oui. Si vous avez remarqué.
Alors, continuons les années 70. Un fait marquant, ça a libéré le Québécois. Le citoyen, le Québécois et la Québécoise, la nation. Mm-hmm. Durant les années 70...
Pas le discours de Charles de Gaulle.
Non. Ben, ça aussi. Ouais. Durant les années 70, la langue québécoise perd enfin ses complexes.
Ah.
Le terreau tout juste remué par Claude Gauvreau et Régent Ducharme donne de beaux arbres en musique de Vigneault à Beau Dommage, mm-hmm. dans le cinéma, de Claude Jutras à Francis Mankiewicz et au théâtre, la scène québécoise sera marquée à jamais par le théâtre expérimental, celui des femmes et les grandes pièces de Michel Tremblay, « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » en 70, jusqu'à « Dan et Manon, sa Cassandra » en 1977. Également, les premiers jeux vidéo.
Oh boy, ça c'est...
Ouais.
Oui, je me souviens vaguement, c'était comme un jeu de ping-pong ou de tennis.
Exactement,
il y avait
ouais.
juste deux lignes blanches ouais. avec un point qui se promenait. Ouais.
Il était une fois les jeux vidéo, il y a 44 ans, il n'y avait pas 44 444 sortes de jeux vidéo. Mais avec les succès du jeu de raquette Pong en 1974, plusieurs sociétés, dont Atari, développaient des consoles et des jeux que l'on branche à la télévision.
Oui, ça, je me souviens de ouais, ça. C'était ouais. juste une console, ouais, c'était notre ouais, télévision ouais. qui servait de moniteur.
Ouais. Ah ben là, je suis carrément le prochain sujet. Je suis dans vos plates-bandes. Rock progressif.
Oui.
Le rock progressif a émergé comme forme musicale à la fin des années 60 au Royaume-Uni, mais l'explosion mondiale a bel et bien eu lieu dans la décennie suivante. Des noms de groupes? Ben, nommez-les deux.
Genesis, Gentle Giant, King Crimson.
Vous avez tout.
Oui, c'était les principaux.
Oui. Ouais. Emerson, Lake and Palmer. Oui. Alouette, Alouette, Alouette. Alors, allons maintenant dans les années 80. Un film. Ah, écoutez, là, on ne peut pas. Les années 80.
Dans les années 80.
Ou un film dans la...
Il y en a plusieurs.
Ah, quelqu'un qui vient de...
Ah, E.T.
E.T.
Ah oui, oui, ouais. ça a été gros, ça.
En décembre 1982, E.T. de Steven Spielberg enchante les critiques pures et dures, mais touche aussi le cœur du public. Figurez-vous, 793 millions de box-office dans le monde dans les années 80.
À l'époque, c'était beaucoup.
Qui représente aujourd'hui, ouais. Est-ce qu'on risquerait le double quasiment?
Oui, probablement. Mais je me souviens que j'avais été déçu, moi, de E.T., parce que pas longtemps avant, Spielberg nous avait amené Close Encounters of the Third Kind. Et ça, c'était vraiment, je trouvais magique.
Ah, ouais,
la
ouais.
progression du film. Mm-hmm. Là, j'avais l'impression avec E.T., c'est qu'il avait enlevé le gâteau puis il nous servait seulement le crémage tout le long du film. Ouais. Ça, j'avais trouvé que non.
Mais c'était cute.
Oui, c'était cute, mais j'avais mieux aimé Close Encounters.
L'histoire de cette poupée extraterrestre qui rate sa soucoupe volante pour retourner à la maison est un conte de fées universel pour les 7 à 77 ans comme les Tintins. La créature en question, à la fois épeurante et touchante, en dit beaucoup plus sur la nature humaine que sur la vie dans les autres galaxies. Mm-hmm. Boy George et Culture Club.
Oui.
Hey. Bien avant Hubert Lenoir, un chanteur androgyne, drôlement coiffé et trop fardé, choquait les parents et faisait danser leurs enfants avec Do You Really Like, Do you really want to Hurt Me et Karma
Chameleon.
Chameleon, oui, voilà. Joe Bocan, repartir à zéro. Aha. Avec ce premier tube écologique et pacifiste à jouer sur les ondes des radios commerciales au Québec, Joe Bocan rêve de trêve. Dans Repartir à zéro, la chanteuse imagine la Terre comme un jardin d'Éden.
Oui, puis c'était les débuts pas mal ça, de Musique Plus, le début des vidéoclips au Québec.
Couleur rose, un grand spectacle.
Ah, Diane Dufresne.
Ben oui, probablement pas son meilleur spectacle. Top secret plus intime 2 ans plus tard au TNM est notre coup de cœur. Mais ce concert de Diane Dufresne a attiré 55 000 spectateurs au Stade olympique en 1984. C'était quelque chose. Thriller, on dit que c'est l'album de la décennie. Michael Jackson avait 24 ans quand il a lancé Thriller, l'un des albums les plus vendus au monde. Dynasty à la télévision, la série Dynasty.
Ouais, ça, je me souviens vaguement parce qu'on ne regardait pas ça, mais je me souviens que ça avait été un gros succès.
Ah, oui. Dynasty a marqué l'imaginaire américain et la série est revenue en onde en 2017. Et les années 80, j'ai le temps encore un petit peu?
Oui.
Les années 90, Boys Band et Girl Power, ça vous connaissez?
Un peu moins.
Oui, c'est ça. Goodfellas.
Oui, le film.
Oui. Friends.
Oui, la série Friends. Oui, c'est revenu d'ailleurs sur certains réseaux.
La petite vie.
Ah oui, ça a marqué.
Nirvana et le grunge.
Oui.
1980, Jean Leloup, on ne peut pas le manquer lui. Les années 2000, une série très populaire, La vie, la vie.
Je connais pas, je suis en train de parler beaucoup. Mais...
Ouais. Ben, c'est 5 amis de Montréal dans la trentaine, Simon, Marie, Vincent, Jacques et Claire.
Un peu comme Friends, finalement.
Oui. La télé-réalité qui a commencé dans les années 2000.
Ça, je suis pas sûr que ça a été une bonne chose.
Mais non, Star Academy,
Love
Story.
On est avec ça aujourd'hui.
Ouais, effectivement. Les Hip-Hop Battles, Apple met en vente le premier Hip-Hop en octobre 2001. Alors, c'est depuis ce temps-là, c'est les Hip-Hop. Arcade Fire, en 2004, un groupe excentrique montréalais appelé Arcade Fire lance un premier album intitulé Funeral.
Et qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui.
Oui. Une série Six Feet Under.
Ça, c'est très bon. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais il y a un acteur là-dedans qui a ressorti beaucoup, qui a parti ensuite la série Dexter.
Ouais. Et en terminant, un film Avatar.
Oui.
James Cameron marque les années 90 avec le film Titanic, mais aussi la fin de la décennie 2000 avec Avatar.
Oui, puis Avatar, c'est un des films qui valait la peine d'être vu en 3D. Parfois,
ah oui,
c'est
oui,
pas
ah
nécessaire,
oui.
mais ah Avatar en 3D, c'est,
ah
vrai,
oui, c'est vrai,
vraiment
oui.
quelque chose.
Je l'ai pas vu en 3D.
Bon, j'avais dit tantôt que je parlais d'une chanteuse américaine qui vient de signer un nouveau contrat qui pourrait changer la donne, ou en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle vient de faire. Il s'agit de Taylor Swift, un article que j'ai trouvé dans le rollingstone.fr qui a été publié le 22 novembre. Le nouveau contrat de Taylor Swift devrait changer la donne pour beaucoup d'artistes. Lundi dernier, lors de l'annonce de son nouveau deal avec Universal Music Group et Republic Records, Taylor Swift en a profité pour imposer une condition assez inattendue. En parallèle du contrat, Universal doit s'engager à remettre une part de l'énorme gâteau. Ben non, c'est pas facile, ça doit être l'émotion qui me ramasse. Donc, Universal doit s'engager à remettre une part de l'énorme gâteau des revenus Spotify aux artistes sur une base non négociable. Et pas seulement à elle, mais à tous les artistes du label.
Oh.
Ça, c'est,
ben
ouais. c'est parce qu'elle a un grand cœur ou elle veut faire un coup d'éclat. Mm-hmm. Mais... Donc, une demande vaste, voire même un peu floue. Il y a quelques années, les trois grands labels, Universal, Sony et Warner, ont tous acheté des actions chez Spotify. Mm-hmm. Ils ont vu où l'argent se dirigeait, ah, donc ouais. C'est normal. Chacun promettant tour à tour que les artistes bénéficieraient de l'investissement en cas de plus-value auprès du géant du streaming suédois. En mars dernier, Universal, le premier à s'être engagé, a annoncé que les artistes auraient une part du gâteau en cas de revente de ces parts en marge de l'introduction de Spotify à la Bourse de New York. Mais d'après certaines sources, le marché conclu avec Taylor Swift impliquerait une distribution des revenus auprès des artistes signés chez Universal totalement indépendante de leur statut. En d'autres termes, chaque artiste recevrait sa part même si ce dernier doit encore de l'argent au label. Une démarche que Sony a également enclenchée suite à l'encaissement de parts investies dans Spotify plus tôt dans l'année, mais pas Warner, dont les parts devraient revenir directement dans les caisses du label. D'après ces mêmes sources proches du Rolling Stone US, cette concordance entre les exigences de la chanteuse et la méthode de paiement du PDG du Universal Music Group, Sir Lucian Grange, aurait largement contribué à concrétiser le deal. Si aucun chiffre n'a été dévoilé, invoquant la nature encore toute relative du deal, Taylor Swift a tenu à préciser que cette gestion des revenus était soumise à de bien meilleures conditions que chez Sony ou Warner. Et ce n'est pas la première fois que Taylor Swift se présente comme une des artistes les plus influentes auprès des grandes plateformes de musique. Elle exigea qu'Apple compense financièrement les artistes pendant la période d'essai d'Apple Music en 2015, et boycotta Spotify durant 3 ans pour protester contre les revenus quasi inexistants dégagés auprès des utilisateurs non payants. Une démarche qui renforce un peu plus la place de l'artiste à l'ère du streaming, récupérant peu à peu les rênes d'une industrie encore majoritairement menée par les grandes maisons de disques. Gregor Pryor, avocat spécialiste de la musique, explique au Guardian que les prérogatives de Taylor Swift concernant les revenus versés aux artistes, malgré de potentielles dettes en cours, est un témoin fort d'une époque qui voit apparaître des artistes businessmen, chose qui paraissait impossible il y a encore quelques années. Et d'après Music Business Worldwide, dont le calcul se base sur un dépôt financier daté de 2008, les parts d'Universal dans Spotify s'élèveraient à 3,5%, représentant 1 milliard de dollars. Imaginez-vous, 3,5, c'est 1 milliard.
Aïe, aïe.
Sur les 28 milliards que représente actuellement la plateforme de streaming sur le marché boursier.
That's what people say. Mm-mm.
Ici Daniel Lachance au micro de Canal M et on est de retour avec les voix de service en ce mercredi 28 novembre 2018. Et je le dis, Jean-Sébastien. Serge, de quoi allons-nous parler dans cette deuxième partie de l'émission?
Encore une fois, je vais utiliser mes deux parties de chronique. Une increvable créature.
Ah.
Ouais, je ne sais pas si ça vous allume, que ça, en tout cas. Mais j'ai demandé à Jean-Sébastien qui a fait une petite recherche et qui va nous faire jouer quelque chose.
Ah oui.
Bon, je pense que tout le monde a compris que c'est quelqu'un qui revient à la vie.
La phrase célèbre « It's alive », oui, ça nous donne
c'est
un
quoi,
bon, très bon indice. C'est le docteur Frankenstein et sa créature.
Oui, oui, oui. C'est 200 ans de Frankenstein. Mm-hmm. C'est un article de Chantal Guy dans la Presse Plus de dimanche. Alors, c'était intéressant. J'ai découvert des choses des choses fascinantes, je pense, qui vont vous aussi, vous allez un peu tomber en bas de votre chaise.
Non, je vais essayer de m'attacher.
Alors, si le mythe de Frankenstein continue d'exister 200 ans après la publication du roman de Mary Shelley, une femme qui a écrit ça, c'est pas un homme, c'est une femme, là, c'est parce qu'il incarne toujours et plus que jamais les risques de la science et le mépris des lois de la nature, selon Céline Lafontaine.
Elle était assez visionnaire, finalement.
Oui, qui présente la conférence immersive Illumination Frankenstein en supplémentaire pour deux soirs à la SAT. Je donnerai les dates tout à l'heure. Et quand on pense que dans la presse, on parle hier et aujourd'hui là, d'un scientifique chinois qui est allé corriger dans l'embryon de jumelles chinoises.
Oui, oui, oui.
Corriger leur embryon pour pas qu'elles attrapent pas qu'elles développent le sida. En tout cas, on est rendu loin, là. T'sais. Alors, nous avons discuté avec elle de la longévité de cette célèbre créature, imaginée par une jeune femme qui n'avait que quel âge, pensez-vous?
Ah, je me souviens, 17 ans.
17 ans, ouais, quand elle a écrit son chef-d'œuvre. Ouais. C'est... Mary Shelley a saisi les enjeux profonds de la modernité. Il y a quelque chose dans son œuvre de l'ordre de l'illumination, une captation de l'esprit du temps et de ce qui se mettait en place qui va transcender l'époque, nous dit Céline Lafontaine, sociologue des sciences, pour expliquer la fascinante portée de Frankenstein ou le Prométhée moderne, publié en 1818, 200 ans. Céline Lafontaine a écrit et lit le texte de la conférence immersive Illumination Frankenstein, récemment présentée à la Satosphère de la Société des arts technologiques, qui sera de tour les 18 et 19 décembre. Alors voilà, si vous voulez y aller. Mm-hmm. Le plus fascinant de ce mythe, c'est que tout le monde le connaît, surtout par son célèbre incarnation, la plus célèbre, celle de...
Boris Karloff.
Boris Karloff, oui. Ouais.
Dans le film... l'ai en DVD, ça c'est un classique.
Ah oui, oui, oui.
C'est une culte là, qu'il faut avoir.
Dans le film de James Whale, en 1931. Mm-hmm. Mais peu de gens ont véritablement lu le classique de Mary Shelley. Beaucoup pensent encore que Frankenstein désigne la créature qui n'est pourtant jamais nommée dans
non,
le roman.
Non, c'est ça, c'est le docteur, ouais. Frankenstein.
Dont la forme en partie épistolaire donne la parole à trois narrateurs. On y trouve le capitaine Robert Walton, qui cherche un passage navigable en Arctique et qui recueille à bord de son navire le scientifique Victor Frankenstein en mission pour détruire la créature qu'il a mise au monde. Un être fait de morceaux de cadavres. Créature bonne au début, devenue mauvaise par le rejet qu'elle suscite. Et donc, elle est rejetée par les hommes. C'est comme ça qu'elle devient mauvaise.
Ouais.
Et beaucoup plus brillante dans le livre que ce qu'on en a fait au cinéma. Ces trois personnages sont les voix du roman qui nous mettent en garde contre l'ambition démesurée de l'homme, capable de prouesses qui peuvent en retour le détruire. Rappelons aussi que ça s'est très mal terminé pour Prométhée. Tous des Frankenstein. L'histoire mène à la création du roman, même de la création du roman, a fasciné les gens à son époque. Comment une jeune femme de 17 ans avait-elle pu imaginer une histoire aussi terrible? Rien n'est banal dans le destin de Mary Shelley, dont les parents étaient des radicaux. Sa mère, Mary Wollstonecraft, morte peu de temps après la naissance de Mary Shelley, est considérée comme l'une des premières féministes de l'histoire, tandis que son père, William Godwin, est l'un des précurseurs de la pensée anarchiste. Sa liaison avec le poète Percy Shelley, un homme marié, fera scandale, de même que leur amitié avec le sulfureux Lord Byron.
Mm-hmm.
Un soir de 1816, à la villa Diodati, au bord du lac Léman, ensuite, ça devait être un très bel endroit, Lord Byron lance un défi à sa bande d'amis après de savantes discussions sur les découvertes de l'époque et la lecture d'histoires de fantômes, soit d'écrire un récit d'épouvante. Seule Mary Shelley, qui avait alors 17 ans, le relèvera et le reste appartient à l'histoire. Frankenstein est aujourd'hui un symbole qui a été évoqué lors du largage des premières bombes atomiques jusqu'à aujourd'hui où l'on parle d'aliments Frankenstein quand il est question de manipulation génétique.
Mm-hmm.
Le champ d'expertise de Céline Lafontaine, professeure à l'Université de Montréal, touche les enjeux liés entre autres aux biotechnologies. Il y a toujours des enjeux qu'on ne peut pas voir, socio-économiques, éthiques, surtout biologique, dit-elle. On est dans une société qui est directement dans la manipulation des corps, de la génétique. C'est vrai, ça?
Effectivement, oui.
Ouais, nous sommes tous un peu des Frankenstein dans cette volonté de conquête de soi, de performance, de transformation du corps. Ce que Mary Shelley voyait comme une tendance de la modernité est maintenant ancré dans notre culture. L'illumination de Mary Shelley peut encore nous éclairer, à mon sens, poursuit-elle. Je suis allé dans des laboratoires où on imprime de la peau humaine, où on travaille sur des organes, des cellules souches. Le plus aliénant est l'industrie de la fécondation in vitro. Le commerce des embryons est devenu quelque chose de banal aux États-Unis. Une femme a mis en ligne son embryon féminin en échange d'un embryon masculin.
Oh, ouais, ça, ça.
Alors que chez Shelley, il y a une pensée du vivant, de la limite de la vie. On va retrouver cela chez les écoféministes. Le désir est perdu de conquête. Bien avant aujourd'hui, Mary et Percy Shelley étaient végétariens. Et d'ailleurs, la créature de Frankenstein, extrêmement sensible au vivant avant de se retourner contre son créateur, l'est aussi.
Ah, ça, je ne me souviens pas d'avoir vu ça dans le film. Non, je ne me souviens pas de l'avoir vu manger.
Ben, c'est sûr, on ne l'a pas vu manger, moi. Elle est plus humaine que l'homme qui l'a créée. Plusieurs interprétations de l'œuvre font un lien entre la créature et Shelley elle-même, mm-hmm. dans son isolement et son rejet, comme le vivaient les femmes à cette époque. Mais ce que cette jeune écrivaine a pu percevoir, ce sont surtout les dérives possibles de la manipulation du vivant, et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Dans son roman, elle a mis sur le même pied la conquête du Nord et la conquête du vivant, souligne Céline Lafontaine. Nous voyons aujourd'hui les enjeux climatiques et sur le plan biologique, l'exemple le plus simple est la résistance aux antibiotiques, qui est un véritable danger pour l'avenir selon l'OMS. Hein, parce qu'on
Il y a des virus qui résistent complètement aujourd'hui.
Ouais. Le plus grand paradoxal aussi est qu'on est dans une grande perte de la biodiversité, alors que partout dans les laboratoires, la vie prolifère. C'est énorme, on crée la vie, mais on perd la vie en même temps.
Et je vous parle de musique, mais je parle surtout d'un personnage très connu et un meurtrier qui est devenu très connu parce qu'il a tué un personnage très connu. John Lennon, son meurtrier, exprime enfin des regrets.
Ah oui?
Il y a quand même quelques années, là, peut-être qu'il a eu le temps de réfléchir un peu. Mark David Chapman, qui a assassiné John Lennon en décembre 1980. Quand même, hein? Ça fait...
38 ans.
C'est pas des farces, ça part du temps. S'est vu refuser sa libération.
Non, 28 ans.
28 ans.
Oui,
ouais,
28
on
n'est
pas vite à matin. Calcul,
non,
c'est...
Non, calcul. 1980, 38 ans.
38 ans, je te dis. On a l'esprit embrumé.
Parce que moi, pour les chiffres, je ne me truste pas moi-même.
Moi, je ne suis pas si mal, mais quand ça va en bas du 2000 puis en haut,
ah,
là,
ouais,
là,
c'est,
ça,
ouais, ouais.
Je ne peux pas calculer ça. On fait un reset à 2000. Donc, des confidences inédites. Mark David Chapman, qui a tué John Lennon par balle un soir du 8 décembre 1980, non loin de Central Park, s'est récemment exprimé alors qu'il sortait d'une audience à propos de sa libération conditionnelle. Ce sont majoritairement des regrets qui émanent de ces mots. « Il y a 30 ans, je ne pouvais pas dire que je ressentais de la honte. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. » C'est quand même un gros changement en 30 ans.
Ben oui, oui.
Il a évolué énormément.
Ça, il y a plus de 38 ans.
Ben oui, a-t-il dit au cours de la dernière audience prévue en août dernier dans l'État de New York, la retranscription étant disponible depuis peu. C'est là où tu te couvres le visage, tu ne veux pas demander de l'aide ou quoi que ce soit d'autre. Il a ajouté, selon l'Associated Press, qu'il se sentait de plus en plus honteux au fil des années. Ce n'est pas la première fois que sa libération conditionnelle lui est refusée, car cela pourrait, d'après la commission, atténuer la gravité de son crime et pourrait aussi le mettre en danger si quelqu'un envisageait de l'attaquer pour se venger. C'est ça le danger aussi, j'imagine. Ouais, ouais. On peut devenir célèbre comme ça, mais en même temps, c'est un piège, parce que là, s'il sort de là... D'après notre interrogatoire et l'examen de vos dossiers, nous concluons que votre libération serait incompatible avec le bien-être de la société et atténuerait la gravité du crime au point de nuire au respect de la loi. Cet été, c'était la 10e fois qu'une commission de libération conditionnelle décidait de lui imposer une peine de 20 ans. Son sort sera une nouvelle fois remis en question en août 2020. Donc, en 2020, c'est ça. Là, ça va faire 40 ans si on fait le calcul. J'ai juste rajouté deux au 38 de tantôt, c'est plus simple. Mais quand même, lors de cette audience, Chapman a aussi raconté les fameux événements du 8 décembre 1980 lorsqu'il a obtenu un autographe de l'ancien Beatles et qu'il l'a abattu quelques heures plus tard. Je me souviens avoir pensé, hey, tu as l'album maintenant, regarde ça, il l'a signé, rentre chez toi. Mais il n'était évidemment pas question que je rentre chez moi. Tandis qu'il a déclaré n'avoir aucune haine personnelle envers les Beatles, Associated Press a rapporté un détail important, qu'il avait choisi d'utiliser une balle à pointe creuse, plus mortelle qu'une balle ordinaire.
Oui, hein?
Je ne sais pas, mais quand tu décides de tirer quelqu'un à bout portant... Je connaissais pas ce détail-là. Je trouve ça un peu sordide. J'ai choisi ces balles pour m'assurer qu'il serait mort, dit-il.
Ben, c'est que des balles, je pense, qui éclatent à l'intérieur.
Ouais, je connais pas vraiment.
Mais non plus, mais ce que j'ai vu dans des...
Mais là, on peut vraiment dire que là, c'est un meurtre prémédité.
Ah ben ouais,
pas rendu là, non,
ben
c'est
ouais,
pas...
Ouais. Hein.
C'est assez... un petit peu dérangeant, ce bout-là. J'avoue que ça m'avait échappé. Ou on n'avait jamais su avant. Donc, originaire du Texas, Mark David Chapman a raconté dans de nombreuses interviews avoir vécu une enfance violente et une adolescence marquée par une consommation élevée au LSD. La belle excuse. Quand je vois ça, j'ai toujours un petit peu de bizarre. Bon.
Mais quand il l'a tué, Lennon, il n'était pas sous l'influence d'une drogue là, à ce moment.
Je pense que ça n'a jamais été vraiment sorti. Ouais. Peut-être que c'est comme Obélix, les effets étaient permanents chez lui. Il est tombé dedans quand il était petit. Ouais. En amont de la Beatlemania, il voit un culte en la personnalité de John Lennon. Une passion devenue démesurée, malsaine, puis mortelle. Et on se rappellera que ça faisait à peu près un mois ou deux, je pense, que Lennon venait de sortir un nouvel album. Ça faisait longtemps qu'il ne faisait plus rien. Il venait de sortir un nouvel album qui s'appelait Double Fantasy, qui avait marché correctement, mais comme ça, plus ou moins. Mais c'est sûr qu'après sa mort, là, c'est, ça s'est mis à se vendre énormément. Donc voilà David Chapman qui va continuer son séjour en prison pour plusieurs années.
Watching the Wheels, John Lennon, issu de son dernier album, comme Daniel nous en parlait plus tôt, Double Fantasy 1980.
Donc Serge, on continue avec
Frankenstein.
Frankenstein.
Oui, c'est dans cette série d'articles-là, il y a des petits clips là, qu'on peut... Mm-hmm. Ben, Jean-Sébastien nous en a fait jouer tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le film, Frankenstein a des relations avec les enfants, hein? Ça, ma relation, c'est-à-dire, non, il va, tu sais, il arrive sur le bord d'un lac, il y a une petite fille qui est là, ou un petit garçon, puis l'enfant n'a pas peur nécessairement
de
ça, parce qu'il ressemble tellement à une...
Il n'est pas menaçant.
Non, non, non. Alors, dans la culture
populaire...
Il a l'air
d'une mascotte, finalement.
Ben, c'est ça, oui. Alors, Frankenstein dans la culture populaire. Le premier film de Frankenstein, qui a été fait en 1910, vient d'être restauré.
Mm-hmm.
Alors, la toute première adaptation très libre au cinéma de Frankenstein par les studios de Thomas Edison en 1910 vient d'être rematricée après beaucoup de défis de restauration, on l'imagine. Hein? Ce film muet de 13 minutes, c'est quand même assez court, est maintenant disponible sur le site de la Library of Congress, un beau cadeau pour le bicentenaire. Mais ça, c'est les congrès des États-Unis. Mm-hmm. Je ne sais pas si on a accès à ça.
Je ne sais pas.
Maintenant, oui, Daniel, on va parler de votre de DVD que vous avez de 1931.
Oui, oui, bon, ça là,
voilà.
Je ne me souvenais même pas qu'il y avait des DVD en 1931, mais je l'ai.
En quête d'un nouveau monstre, après le grand succès de Dracula avec Bela Lugosi, Hollywood a jeté son dévolu sur celui de Frankenstein. En 1931, un classique instantané est né, réalisé par James Whale, qui s'inspira du cinéma impressionniste allemand. Ce succès qui demeure encore aujourd'hui l'incarnation la plus célèbre de la créature, mm-hmm. It's Alive, qu'on entend dessus, oui. Est probablement l'une des répliques les plus connues du cinéma. Lancera les carrières de Boris Karloff et de Colin Clive et mènera à une suite tout aussi respectée, sinon plus, Bride of Frankenstein, mm-hmm. avec Elsa Lanchester et son inoubliable coupe de cheveux. Je ne peux pas vous montrer, là, le regard, vous
je me souviens,
ben,
oui, mais je fais tout.
Mais on dirait que c'est une coiffure d'aujourd'hui, quand on est afro, là, quasiment.
Tu sais, ça faisait peur à l'époque, mais aujourd'hui,
ben oui,
on a vu d'autres.
Ouais, ouais. Ensuite, inépuisable interprétation. La créature de Frankenstein a été un personnage de bande dessinée, une marque de céréales.
Oui.
Ah oui, vous savez ça?
Oui, oui, je me souviens
avoir dit
ça.
Les Frankenberry, une chanson des New York Dolls et l'objet de parodies, notamment dans « The Addams Family ». La plus connue reste celle de Mel Brooks, Young Frankenstein, en 1974, en noir et blanc.
Oui, celle-là aussi, je l'ai. Ça, c'est un autre classique.
Tout
avec Gene Wilder.
Gene Wilder, ouais. Parce qu'elle était très respectueuse du classique de James Whale. Mentionnons aussi des films qui inversent le sexe de la créature, comme The Bride de Frank Rodham avec Sting, ou même Weird Science de John Hughes, ou des génies fous créent la femme parfaite. Enfin, Kenneth Branagh a offert sa vision, quelque peu hystérique mais fidèle, du roman en 1974 avec Robert De Niro dans le rôle de la créature. Il y aurait eu un film sur Mary Shelley.
Ah, ça, oui. Ah oui, j'ai entendu parler de...
Oui, la fameuse nuit de la naissance de Frankenstein dans l'esprit de son auteur, avec Mary et Percy Shelley. Lord Byron et Claire Clermont a inspiré plus ou moins bien les cinéastes qui ont souvent fantasmé les tensions érotiques de ce groupe. Cela a donné le Gothic de Ken Russell en 1986 et le Haunted Summer d'Ivan Passer en 1988. Plus récemment, en 2017, la cinéaste d'origine saoudienne Haifa Al-Mansour a transporté la vie de l'écrivaine pour le film biographique Mary Shelley avec Ella Fanning dans le rôle-titre. Alors voilà.
Là, je vous parle de musique, de documentaire, mm-hmm. quelque chose d'assez particulier. Avez-vous déjà entendu parler de Spinal Tap?
Non, ça
vaut la peine que je vous en parle parce que c'est tout un phénomène. Un article que j'ai trouvé dans le Rolling Stone.France qui est paru il y a deux jours, le 21 novembre. Spinal Tap, le faux groupe le plus culte de l'histoire du rock, se reformera en 2019.
Mm.
Un événement unique qui se tiendra dans le cadre du Tribeca Film Festival au printemps prochain. Le groupe culte Spinal Tap fêtera dignement les 35 ans de son film avec une projection et un mini-concert. Réglez vos amplis sur 11, ça c'est un gag que je vous expliquerai tantôt. Mm. Le faux groupe Spinal Tap sera de retour en 2019. Sujet central du légendaire « This is Spinal Tap », le mockumentaire, c'est un terme qui a été inventé pour décrire un faux documentaire, pour se moquer dans le fond. satirique sorti en 1984, se moquait ouvertement de vrais documentaires de films rock comme Gimme Shelter en 70, consacré aux Rolling Stones, The Song Remains the Same en 1976, qui était un concert filmé de Led Zeppelin, ou encore The Last Waltz, qui retrace le dernier concert de The Band donné lors du Thanksgiving de 1976. Le film suivait Spinal Tap par l'intermédiaire du réalisateur fictif Marty D. Burgee lors de la tournée américaine du groupe en 1982 pour défendre leur album Smell the Glove, une catastrophe annoncée, les salles ayant du mal à se remplir et les revendeurs rechignant à commercialiser le disque à cause de la pochette jugée sexiste. Tout ça, c'est du fou, là. Dénonçant avec humour les excès et les manies parfois ridicules des groupes de hard rock de l'époque, le film est depuis entré dans la légende grâce à une poignée de séquences mémorables, dont celle fameuse de l'ampli. Quand je disais tantôt réglé à 11, c'est que les amplis de guitare ont un volume avec des chiffres qui va de 0 à 10, donc 10 étant le maximum. Et dans le film, le guitariste expliquait que lui s'était fait faire un ampli.
Ben oui,
le volume montait jusqu'à 11.
Eh ben.
Mais c'est juste ajouter un chiffre sur le bouton, ça fait pas rien.
Ça fait
mais
rien.
Pour lui, c'était,
pour lui, c'était
bon. Ben important.
Non, le gag est expliqué dans le film, mais là, pourquoi ne pas juste faire l'ampli plus puissant et ton disque va être plus puissant?
C'est
lui de répondre seulement, ils vont jusqu'à 11.
C'est ça, lui, c'était le chiffre qui comptait. Il allait plus loin que les autres. Donc, c'était plein d'absurdités comme ça dans ce film-là. Donc, tellement culte que le Tribeca Film Festival, un événement de cinéma indépendant organisé à Manhattan, fêtera comme s'il a mis ce doigt les 35 ans de This is Spinal Tap dans le cadre de son édition 2019. Au programme, une projection, mais aussi et surtout un mini-concert ou en tout cas une mini-performance musicale spéciale, ainsi qu'une conférence organisée avec le trio de tête du casting, Christopher Guest, Michael McKean et Harry Shearer, ainsi que le réalisateur Rob Reiner. Lors de l'annonce, ce dernier s'est fendu d'une déclaration dans laquelle il dit « Spinal Tap prouve que la frontière entre bêtise et intelligence est ténue. » Mais dans ce film-là, ce qui est drôle, c'est qu'on voit, c'est vraiment, on se moque de tous les documentaires de films de rock. On voit tous les gadgets, tous les trucs que le groupe peut utiliser pour essayer de se démarquer des autres. Et il y a tellement d'absurdités que ça vaut la peine de le voir, même si on n'est pas un amateur de musique, même si on n'est pas un amateur de musique rock. C'est vraiment une comédie. C'est pas un film musical. Mm-hmm. C'est un film sur... On se moque du monde, de ce monde-là, du monde de la musique. Mm-hmm. Et la même équipe, dans le fond, on fait un film en 2003 qui s'appelait « A Mighty Wind ». Et ça, c'est un autre, un peu dans le même principe. Mais là, à ce moment-là, on se moquait du milieu de la musique folk. Un peu comme quand vous voyez des revivals à PBS, la chaîne américaine. Là. Tous les clichés des groupes de musique folk sont là. Donc, à voir si vous avez jamais vu « This is Spinal Tap », c'est vraiment un classique. Donc Serge, il nous reste encore quelques petites choses à dire sur...
Oui, ben Frankenstein, à venir, il y a de l'espoir. Le cinéaste Bill Condon s'est intéressé aux derniers jours de James Whale dans l'excellent film Gods and Monsters en 1998 avec Ian McKellen, qui a été finaliste aux Oscars, dans le rôle du réalisateur du Frankenstein de 1931. Selon les plus récentes rumeurs, ce ne sont que des rumeurs, mais les rumeurs...
Oui, parfois.
Il travaillerait à un remake de Bride of Frankenstein, du même Whale. Et pour l'instant, Javier Bardem et Angelina Jolie feraient partie du projet qui devrait voir le jour en 2019. Frankenstein, on le répète, est increvable.
Oh, absolument. Il y a plein de choses encore aujourd'hui qui se disent sur Frankenstein. Mm-hmm. Et dans un autre ordre d'idées, j'ai vu récemment que Jean-Marc Vallée va adapter à l'écran le couple Yoko Ono et John Lennon.
Ah oui. oui.
Je sais pas pourquoi j'ai vu un lien avec Frankenstein. Ça a peut-être pas de rapport
pas
du tout.
Non,
mais c'est juste que j'ai vu ça, puis on parlait de John Lennon tantôt.
Oui.
Alors, je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée dans le lycée. Donc, oubliez Frankenstein.
C'est bonne, celle-là.
Alors, c'est ce qui met fin à l'émission Les Voix de service du mercredi 28 novembre 2018. En l'absence d'Isabelle Falardeau, qui devrait être avec nous la semaine prochaine.
On l'espère fort.
On
fort,
l'espère
fort.
Beaucoup. Donc, je voudrais remercier Jean-Sébastien Laliberté pour avoir trouvé toutes les chansons qu'on avait besoin ce matin. Merci.
Je sais qu'il a travaillé fort pour le Frankenstein parce qu'il
ouais.
trouvait le visuel, mais il ne trouvait pas la musique, le texte qu'elle avait. Fait que là, il l'a trouvé.
On se souvenait des paroles quand même. On aurait pu faire les voix off, là,
ah,
ça aurait fonctionné,
ouais.
Mais bon, quand même, il nous l'a trouvé. Donc, merci à Serge Bredet, toujours aussi intéressant. C'est des choses qu'on aime bien
un
se
plaisir,
faire raconter.
Un plaisir.
Donc, on se revoit mercredi prochain.
Oui.
Bonne journée à tout le monde et restez avec nous dans quelques instants. C'est Hélène Denis avec Le Quotidien des Quotidiens.